dites des choses désagréables. Elle se dépêche vite de vous coffrer. Parlons aussi de ces hommes politiques, des tas de mannequins qui changent de parti, qui pour leur trahissent la République. Ces gros dents-là vendraient bien leur pays. Maintenant parlons de ces héros sublimes, race maille banquise.
Donc on est avec Philippe Mortiner qui a fait l'introduction du bouquin sorti chez Insomniac cette année, Golan de la Villette et d'ailleurs, et peut-être c'est toi qui as eu l'idée de le sortir aussi, je ne sais pas.
Oui, c'est un livre que j'avais depuis longtemps, là, c'est une réédition, donc c'est un livre qui est sorti en 1929, c'est un livre que j'ai toujours eu envie de rééditer sous la forme livre-disque, comme on avait déjà fait avec l'Insomniac plusieurs livres-disques, notamment un sur le cambrioleur anarchiste Jacob, où il y avait également des chansons anarchistes d'époque qui étaient chantées par des amis de notre petit coin de banlieue parisienne. Et on en a fait un autre sur la prison qui s'appelle Au pied du mur, qui est une anthologie de textes sur la prison et les prisonniers.
Qui se trouve encore d'ailleurs ou qui est épuisé ?
Non, ces deux titres sont épuisés, je les mentionne pour mémoire. Ils seront réédités un jour, il n'y a pas de problème.
Et puis on peut dire au passage que tous les morceaux de musique peuvent se trouver sur le site de l'Insomniac.
Absolument.
Sans problème. On peut les télécharger, on peut les écouter.
Gratuitement, voilà. Ils sont à la disposition du public. Tout le monde peut les télécharger. Et puis surtout, celui qui a le plus de rapport au finish, c'est un qui est encore disponible, qui n'est pas épuisé, qui s'appelle Wobblies et Hobos, qui est un livre sur les vagabonds américains et la lutte des classes aux États-Unis au début du XXe siècle. Et sur ce disque, il y a eu notamment beaucoup de blues de hobos noirs américains qui racontent la vie des vagabonds, des gens qui esquillent le train. Et on avait fait aussi, avec un seul groupe, là, 6 ou 7 chansons, reprises en rock ou en moderne, quoi, de chansons emblématiques du mouvement ouvrier américain.
Avec Gomard ?
Avec le groupe Gomard de Montreuil, ouais. Ouais, voilà.
Et alors, toi, qu'est-ce qu'on sait de Chotard ?
Alors, qu'est-ce qu'on sait de Chotard ?
Ce type qui s'est mis à enquêter sur la culture populaire.
On sait qu'il est né en 1868, on sait qu'en 1929, évidemment, il était encore vivant. Il était ouvrier typographe.
Aristocratie ouvrière, quoi.
On peut dire l'aristocratie ouvrière, c'est-à-dire celle qui avait le plus d'éducation lettrée, quoi, typographe. Et lui, bon, ben, il passait beaucoup de temps au bistrot, comme les typographes, c'est toujours été une profession qui aime bien
qui donne soif.
Boire, et qui aime bien la convivialité des bistrots. Et ça lui a permis d'observer la vie de gens qui ne sont pas l'aristocratie ouvrière, mais plutôt l'inverse, c'est-à-dire ce qu'on appellerait le lumpen prolétariat. C'est-à-dire la pègre, et qui était constituée à l'époque de fils d'ouvriers, on peut dire fils d'immigrés aussi, dans la mesure où ils venaient de province.
Ouais, des Bretons, des Auvergnats, quoi.
Voilà, qui n'étaient pas francophones. Enfin, eux, ils arrivaient, ils n'étaient pas francophones. C'est donc leurs enfants, c'est les enfants de ces immigrés, qui devenaient, soit ils allaient à l'usine, soit ils devenaient prostitués ou voleurs.
Ce qu'on appelle de nos jours l'économie souterraine. Quoi.
Voilà. Il y avait beaucoup de cambriolages, mais il y avait également beaucoup de... Il n'y avait pas beaucoup d'éclairage public, il n'y avait pas de caméra sur la voie publique. Et donc, il y avait beaucoup d'agressions souvent très violentes de gens. Donc, c'est pas idyllique du tout, mais bon, voilà. Les rapports sociaux étaient beaucoup plus violents à l'époque.
Hein. Donc, ça veut dire le gars dans les années 20, le gars Chotard, dont on ne sait pas grand-chose par ailleurs de sa biographie.
Non, sur lui-même, il est très modeste, il est très discret, il parle pas de lui, mais on devine à la manière dont il présente les chansons qui sont recueillies dans les Goélandes, on devine qu'il était en contact et qu'il s'intéressait. Donc il allait, et ce qu'il faisait, c'est qu'il allait dans les bistrots, dans les bastrings, c'est-à-dire les bals musettes, et il notait les chansons. Donc les chansons qui sont dans ce recueil, les Goélandes de la Villette et d'ailleurs, sont des chansons qui n'ont pas été chantées par des chanteurs de profession, qui n'ont pas été enregistrées.
C'est pas des chansons de Gavroche.
À l'époque, il y avait déjà les premiers enregistrements. Ce sont des chansons qui n'ont même pas circulé sur des feuilles de partition, comme on faisait à l'époque, l'ancêtre du disque, quand les gens chantaient dans les cours et dans les rues. Ce sont des chansons qui ont été écrites souvent en prison. Par des délinquants, donc elles sont écrites dans une langue très très authentique. Hein. C'est vraiment l'argot parisien tel qu'il était parlé à l'époque, et non pas celui d'Aristide Bruand, par exemple, qui sont des belles chansons, mais qui étaient compréhensibles par tout le monde et qui avaient un succès énorme d'ailleurs, et qui jouaient sur le même folklore, le pittoresque,
comme disait Macorlan, le pittoresque de Montmartre.
Des filles de joie, des pâles voyous, mais bon, ça, c'est ces chansons de Bruand avaient un énorme succès, et peut-être qu'elles ont même influencé des gens qui les chantaient et qui en ont écrit quand ils étaient en prison ou quand ils avaient un autre à foutre.
Et du coup, dans la réédition que vous avez faite, vous avez mis les traductions de l'argot.
Voilà.
C'est un argot belle époque.
C'est Chautard qui l'a fait.
Mais vous avez repris les traductions de Chautard.
Les traductions de Chautard, il a traduit tout ce qui était, on peut dire, incompréhensible pour
métier. Pour les caves.
Oui, c'est ça le mot, mais enfin, c'est un mot cruel, mais en réalité, pour les gens qui n'étaient pas nés dans les faubourgs parisiens. Et nous, à la fin de l'ouvrage, comme l'argot, cet argot-là, c'est pas du tout le même argot que celui qu'on parle maintenant, ou même que celui qu'on entend dans les films d'avant-guerre, Marcel Carnet, etc. On a mis un petit glossaire à la fin de l'ouvrage où tous les mots qui sont incompréhensibles de nos jours sont expliqués. Selon d'ailleurs un autre ouvrage de Chautard qui s'appelle La vie étrange de l'argot, qui vient d'être réédité par les éditions Bartilla, et j'en conseille l'achat vivement, et qui est un livre, le dictionnaire le plus foutraque que j'ai jamais vu, mais qui est émaillé d'anecdotes, d'extraits de chansons.
Pourquoi foutraque? Parce que les extraits, c'est n'importe quoi.
Voilà, ou... c'est pas dans l'ordre alphabétique, c'est par thème. Alors pour un dictionnaire, on a du mal à s'y reconnaître, parce que c'est des thèmes qui sont... mais le livre est excellent et très agréable à lire, parce que bon, on a l'impression de lire la rubrique des faits divers, plus toute la poésie des chansons populaires. Quand je dis chansons populaires, c'est-à-dire des chansons qui ont été écrites par des gens du peuple, pas seulement achetées, écoutées et rechantées par des gens du peuple, mais écrites par des gens du peuple. Souvent en pompant des mélodies à la mode de l'époque. Hein.
C'est ça, voilà. Parce qu'en fait, il y a cette vieille... cette vieille habitude qui vient déjà du 19e, où on prend une mélodie à la mode et on la réarrange avec de nouvelles paroles.
Absolument, c'est une sorte de détournement.
Voilà. C'est pour ça que, par exemple, le Chant des Pègres, il existe au moins 4 versions, 5 versions, où chacun y va de son couplet, etc.
Ce qu'il faut préciser avant, c'est qu'avec le livre, il y a un disque, justement, donc c'est ce qu'on disait au début, c'est un livre-disque, où il y a 17 chansons, et ces chansons ont été enregistrées pareil par des amis, par des artistes amateurs pas très connus, et elles ne respectent pas le style de l'époque, sauf pour 3 ou 4 dont on avait les partitions, mais on a laissé les artistes libres de les adapter ou pas au style qu'ils pratiquent en général. Donc ce ne sont pas des artistes, il y en a quelques-uns qui sont, on va en écouter d'ailleurs, il y en a quelques-uns qui sont des artistes de chansons françaises, hein, comme on dit, et il y en a d'autres, c'est du ska, du rock'n'roll, du blues.
Ouais, ce qui fait la musique.
Voilà, c'est-à-dire les musiques populaires de nos jours. La chanson française a connu un regain, mais pas tellement dans les classes populaires. Pas tellement dans la jeunesse des classes populaires.
Avec le hip-hop, si.
Bah oui, enfin voilà, mais bon, quand je dis chanson française, je pense plutôt à. Je sais pas,
Cabaret.
Voilà, ce style-là, qui est toujours admiré, mais qui est tombé en désuétude dans les milieux populaires, à ma connaissance. C'est quand même plutôt une sorte d'antiquité. Mais là, il n'y a pas de rap.
D'habitude, il y avait toujours le petit morceau de hip-hop.
Là, il n'y en a pas. Bon, ça s'est trouvé comme ça.
D'accord.
Et juste, tu disais qu'il n'y avait pas eu de transmission par. Enfin, il n'y avait pas eu de feuille de partition qui existait pour un certain nombre de chansons.
Oui.
Du coup, la transmission jusqu'à ce bouquin et ces enregistrements-là, elle se fait comment?
Alors, il y a des gens qui ont l'oreille et qui savent noter des notes quand ils les entendent. Lui, je pense qu'il n'était pas trop doué pour ça, mais qu'il venait avec un copain qui savait le faire. Il y avait beaucoup de gens qui faisaient de la musique populaire à l'époque. C'était très courant que les gens chantent ou fassent de la musique populaire, parce qu'il n'y avait pas justement de médias pratiquement, donc il fallait faire sa propre musique dans son propre quartier, et d'où les complaintes et les balades, qui racontent souvent des histoires très anecdotiques de tel ou tel faubourg, sur tel ou tel gars qui a eu pas de chance, qui est allé en prison, après il est parti au bagne, etc. Il les a recueillis comme ça, Chotard, en les notant. Il s'explique pas sur sa méthode dans le détail, donc je vais pas extrapoler non plus. Mais bon, à peu près c'est ça qui ressort.
Et puis il y a eu aussi des enregistrements qui ont été faits postérieurs. Je pense à des disques comme celui de Jacques Marché, On a chanté les voyous,
voilà, y a eu...
ou des exemples comme ça, où ils sont allés rechercher des...
Il y a dans deux disques des chansons qui ont été...
Il y a celui des quatre barbus.
Il y a celui des quatre barbus, qui s'appelle Je crois chanson des bagnes, et celui de Jacques Marché, qui sont tous les deux de très bons disques. Ce sont des artistes de très grande qualité, des très bons chanteurs. Les années 60-70, et dans ces deux disques, On a chanté des voyous et Chansons des bagnes, on trouve une ou deux par disque chansons qui sont dans ce recueil. Et dans ce recueil, la plupart des chansons, elles sont presque inconnues. Hein, quand ils les ont enregistrées dans les années 60-70, les quatre barbus et Jacques Marché, ils avaient obligatoirement ce livre-là entre les mains.
Puisqu'en fait, ce livre-là, la première édition, elle n'était pas... Elle se trouve encore en cherchant un peu.
Oui,
ça s'est trouvé pendant longtemps.
Chez les bouquinistes. Je l'ai trouvé chez un bouquiniste. Mais c'est une édition, je ne veux pas me vanter, mais c'était une édition beaucoup moins belle. C'est une édition, c'est une sorte de livre de poche pour l'époque.
Oui, compact.
Qui a très mal vieilli. Et l'iconographie, pas du tout la même. Parce qu'on peut préciser aussi, puisqu'on parlait de la forme du livre, qu'il y a beaucoup d'images, quoi. Il va y avoir 150 images d'une iconographie qui date de cette époque, des facsimilés de la presse populaire, de l'assiette au beurre, des dessins des grands dessinateurs de l'époque, Valoton, Josso, etc.
Bah, pour partir sur le disque, moi je commencerai bien par le dernier morceau du disque, qui est le seul morceau qui ne date pas d'époque,
qui est
chanté par Roland Brou.
Voilà. Alors... Roland Brou, c'est un chanteur breton. Il y a d'autres chanteurs bretons sur ce disque. Il y a toujours eu un lien très direct entre la Bretagne et Paris, à cause de l'immigration bretonne énorme qu'il y a eu à cette époque-là, justement.
Et du quartier Montparnasse, du coup.
Là, c'est plutôt... Les Bretons, c'est plutôt dans les faubourgs du Sud, le quartier Montparnasse, et maintenant, dans la banlieue Sud, il y a encore énormément d'amicales bretonnes, des fest-noz régulièrement. Et donc, Roland Brou, c'est un chanteur, très bon chanteur de fest-noz, qui a enregistré des disques, et qui a son public en Bretagne, évidemment. Et qui a accepté de chanter cette chanson, qui est la seule chanson donc écrite. Elle a été écrite en 2014. Elle n'essaye pas d'imiter l'argot de l'époque, mais elle dit ce que
l'état des lieux.
Voilà, un peu l'état des lieux maintenant de ce qui est devenu Paris, c'est-à-dire Paname. Donc cette chanson s'appelle Ciao Paname, et chantée par Léon Brou.
De la Bastoche à la Courtille, Paris rebelle s'est avachi. Plus de petites marmailles qui fourdillent, plus de bons ignis d'affranchis. L'argent les a chassés au diable dans la grande ville de Paname. Il n'y a plus que des larvins jetables et des bourgeois sans cœur ni âme. Et des bourgeois sans cœur ni âme. Ciao Paname, on t'aimait bien quand t'avais l'accent faux rien. Ciao Paname, on reviendra quand la vraie vie refleurira. Les sans-artiches y sont tricards, les sans-fafios y sont traqués, et les lascars sont au placard, l'ennui gouverne en majesté. Les vrais de vrais sont tous claqués en centrale ou dans des hostos. Les pauvres ont été déportés, loin des fortifs dans des ghettos, loin des fortifs dans des ghettos. Mais ciao Paname, on t'aimait bien quand t'avais l'accent faubourien. Ciao Paname, on reviendra quand la vraie vie refleurira. Paris Burlingue, Paris Musée. Camp de travail, camp de loisirs, les technocrates t'ont bien baisé. Pour juguler tous nos désirs, Paris du fric, Paris des flics, omniprésent, omnipotent, béton, plastoc et coup de trick. Mais où sont les rats de Dantan? Mais où sont les rats de Dantan? Et ciao Paname, on t'aimait bien quand t'avais l'accent faubourien. Ciao Paname, on reviendra quand la vraie vie refleurira. Le jour viendra de notre tour, quand ce monde en toc s'effondrera. Alors le pognon n'aura plus cours, la chouette amitié renaîtra. On se fera l'appel de nos clapiers pour désinguer tous les flicards. On se remettra dans nos quartiers, où ce qu'on gâchera tous bien peinard, où ce qu'on gâchera tous bien peinard. Ciao Paname, on t'aimait bien quand t'avais l'accent faubourien. Ciao Paname, on reviendra quand la vraie vie refleurira. Oui, ciao Paname, on t'aimait bien quand t'avais l'accent faubourien. Ciao Paname, on reviendra quand la vraie vie refleurira. Quand la vraie vie refleurira.
Du coup, on peut dire que c'est toi l'auteur de la chanson, donc tu ne l'as pas écrite pour l'occasion.
Si, je l'ai écrite pour l'occasion.
Ah, ouais. D'accord.
Oui, je l'ai écrite. Je me suis dit, bon, il faudrait que toutes ces chansons qui étaient de l'époque se terminent, donc c'est la dernière chanson du disque, on va la mettre en premier, mais c'est la dernière chanson du disque, qu'elle se termine par une sorte de bilan, comme ça, de ce qui est devenu Paris. Il est évident que les faubourgs populaires à Paris, ça n'existe plus, à très peu de choses près. Et en tout cas, certainement pas tels qu'ils étaient à l'époque. À l'époque, à Paris, il y avait, mettons, 3 à 4 millions, 5 millions, c'était difficile, les recensements, tout ça, d'habitants, mais surtout tout l'Est, le Nord et le Sud, pratiquement, et du 15e, hein, c'est-à-dire, pour ceux qui connaissent Paris, maintenant, c'est un quartier extrêmement huppé, mais du 15e, où il y avait les anciennes usines Citroën, jusqu'à la Chapelle, il y a tout un arc, et même un peu plus loin, jusqu'à Guimauquès, donc l'Est du 17e, tout cet arc de faubourg était populaire, et même très populaire pour certains endroits. Et les populations qui avaient dans ces faubourgs ont été, on peut dire, déportées, entre guillemets, d'abord dans la petite couronne, la proche banlieue, et maintenant, ensuite, bon, de nos jours, ça va jusqu'à Meaux, Orléans, Beauvais.
Ouais, ça fait une trentaine d'années que le processus s'est accéléré, et absolument, que là, il est à peu près en voie d'achèvement.
Il est en voie d'achèvement. Parce que d'une part Paris est devenu une ville extrêmement touristique, donc il y a ce phénomène de muséification, le moindre bâtiment, la moindre rue pittoresque, il y a 20 magasins de vêtements qui s'ouvrent, 40 restaurants branchés, et puis il y a un phénomène et qui est accompagné donc de Airbnb et d'autres phénomènes de tourisme de masse comme ça. Et puis il y a aussi une gentrification qui vient, c'est-à-dire un embourgeoisement qui vient de la hausse du foncier et de la transformation des rapports sociaux de production à Paris, puisque avant c'était une ville ouvrière, donc, et maintenant c'est une ville qui est entièrement consacrée à l'économie du tertiaire, c'est-à-dire il y a pratiquement plus de... On produit pratiquement plus rien dans la ville de Paris intramuros et fort peu dans la petite couronne.
Paris, c'est en quelque sorte, je crois que tu dis à un moment donné, c'est comme une nouvelle Athènes à cette époque, fin 19e, début 20e. Bon, ok, c'est la ville qui s'est couverte 12 fois de barricades en un siècle. C'est la ville
c'est
qui.
Choses, voilà, c'est des choses qui sont différentes en quelque sorte. C'était la ville, une sorte de capitale culturelle du monde à l'époque. C'est pourquoi on parle de ville lumière ou de nouvelle Athènes. Et c'était le lieu où toutes les avant-gardes artistiques, tous les cénacles littéraires portaient la culture de la bourgeoisie, on peut dire. Bon, mais la bourgeoisie...
Souvent, y compris dans son côté éclairé.
Évidemment, bien sûr. Non, ça peut être à la fois mal armé, mais d'un autre côté aussi, il y a beaucoup d'intellectuels d'extrême droite à l'époque, donc c'est très différent de la situation. Par exemple, tous les étudiants presque étaient d'extrême droite à l'époque. Parce qu'il y avait beaucoup moins d'étudiants, qu'ils étaient tous issus de la bourgeoisie ou de la haute bourgeoisie, qui défendaient leurs intérêts de classe de manière, on peut dire, peut-être plus lucide que ceux d'aujourd'hui. En tout cas, c'était les Camelots du roi, c'était les monarchistes, les catholiques traditionnels, qui se bagarraient avec la police, puisque c'était la police de la République et qu'ils étaient monarchistes. Du roi avec leur fameuse canépée, et tout ça. Là, on s'éloigne un peu. Pour donner un peu le cadre, c'est qu'il y avait un Paris bourgeois très prestigieux, hein, donc qui n'était pas seulement des quartiers résidentiels pour bourgeois, qui étaient des quartiers animés avec un théâtre, il y avait peut-être 20 fois plus de salles de théâtre que maintenant à Paris, avec dont des théâtres assez populaires d'ailleurs, du côté des grands bars, avec des salles de concert partout. Hein. Et donc il y avait ce côté ville lumière, ville culturelle, et d'un autre côté, une autre culture, qu'on va appeler une culture cachée, mais qui finalement était la vraie culture, puisque c'est la culture de la majorité de la population, et qui est la culture ouvrière. Et son pendant, la culture des voyous, la majorité de ses fils d'ouvriers.
Et que tout ce petit monde cohabitait, parce qu'en même temps qu'il y avait des endroits très bourgeois, par exemple, je sais pas, du côté de la place Maubert, c'était un endroit à la belle époque, enfin au début du 20e, qui était essentiellement prole. Mmh. La butte aux cailles, c'est pareil. Mmh. Tout ça était relativement, malgré tout, obligé de se croiser, y compris pour le pire.
Il y avait quand même, voilà, tous ces quartiers qui sont maintenant extrêmement touristiques et marchands et commerçants, et où le mètre carré coûte plus de 10 000 euros. Et à l'époque, étaient peut-être les plus populaires. Parce que ce qui a fait leur charme et ce qui a causé leur malheur, c'est que justement, ils étaient très pittoresques. Montmartre, c'était réellement un village perché sur une colline. Il fallait escalader, il n'y avait pas de funiculaire encore. Il fallait escalader les escaliers de la butte. Et comme dit la chanson, les escaliers de la butte sont durs aux malheureux. Donc c'était une sorte d'enclave. Après, les artistes désargentés sont venus. Quand ils ont commencé à être célèbres, à vendre, ça a attiré toutes sortes de gens.
Montmartre a une histoire très particulière. Ça a été des hauts lieux de la Commune de Paris. Et après, ça a été un des lieux d'amusement de Paris.
Exactement. C'est-à-dire que ça s'est passé à ce moment-là, justement. Au temps de la Commune, c'était encore un village peuplé de malandrins, à coupe-gorge, réellement. Mmh. Les premiers cabarets qu'il y a eu, c'était ça, quoi. C'était autour de la prostitution, d'où la tradition épigale qui a perduré longtemps. Autour de la prostitution, des cabarets où on venait guincher, c'était... voilà. Et les bourgeois, ils venaient pour s'en canailler, en quelque sorte, pour trouver de la chair fraîche avant marché, pour trouver des produits, parce qu'il y avait déjà toutes sortes de produits illicites qui circulaient, l'alcool de contrebande, la morphine, la coco. Voilà. Donc déjà, il y avait cette tendance des bourgeois à venir s'en canailler, à aller là où les gens s'amusaient vraiment, parce que dans leur quartier, ils s'ennuyaient. Donc c'était le lieu de l'adulte. Voilà. Ils venaient, ils se marraient, ils venaient... Voilà. Et de temps en temps, ils se faisaient assommer dans une ruelle ou dans une impasse, et ça faisait partie des risques. Bon, voilà, l'hystérie sécuritaire qu'on connaît actuellement, bizarrement, n'existait pas du tout, en tout cas au même stade à l'époque. C'est là qu'elle a commencé, avec les débuts de la presse populaire.
Et pourtant, quand on lit le petit journal, voilà, ou les textes sur les Apaches, on pourra lire les textes des émeutes de 2005. Quoi.
Ça date de ce moment-là. Mmh. Il y a toujours eu une presse... une presse à sensation, hein, en France, même du temps de Charles X, de Louis-Philippe, même pendant la Révolution, mais qu'elle soit diffusée à des millions d'exemplaires, parce que le Petit Parisien ou le Petit Journal, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas d'autres médias, donc il s'était vendu pour quelques centaines. Et il y avait 15 ou 16 éditions par jour. C'était presque comme Internet, il renouvelait sans arrêt le contenu pendant la journée. C'était des entreprises qui était construite sur des imprimeries, où tout était intégré en quelque sorte de la production des textes à la production des exemplaires du journal. Donc ces journaux-là propageaient effectivement une hystérie par rapport à la délinquance et à la sécurité, mais on sortait d'une autre époque. Les gens étaient beaucoup moins bouillis, avaient un rapport à la violence très différent. On a vu comment ils sont allés aux tranchées en 14. Et de nos jours, les gens sont beaucoup plus bouillis. Donc il suffit qu'il y ait un fait divers crapuleux pour que ça déclenche. À l'époque, il en fallait quand même plusieurs, ou alors il fallait qu'il soit particulièrement romanesque.
Comme Casque d'Or, par exemple.
Exactement. Bon, ouais. Casque d'Or, donc c'est l'archétype de la prostituée un peu fort en gueule, que se disputent deux malandrins qui sont chacun à la tête d'une bande rivale, Manda et Leca. Il y a le fameux film de Jacques Becker avec Simone Signoret, qui est dans le rôle de Casque d'Or. Et ça va mal se finir, il va y avoir des morts, ils vont aller en prison. Mais la presse en a tellement parlé qu'elle-même, donc Amélie Ellie, Casque d'Or, est devenue une sorte de vedette.
Elle s'exhibait en Belgique.
Elle avait son propre show, tout, un peu à l'américaine, comme ça arrivait aux États-Unis. Bon, de plus en plus, ce qu'on appelle le spectacle, l'entertainment, le showbiz, va aller puiser donc dans cette culture populaire et pour arriver au grand, grand succès des vrais grands artistes populaires qui sont juste après la guerre, qui sont Maurice Chevalier, Miss Tinguette, qui était d'ailleurs conformé un couple, Milton, Georgius, qui ont eu, avec le disque et la radio, donc ça a démultiplié le succès, et c'est devenu, on peut dire que la chanson folklorique parisienne, c'est le musette, grosso modo, et ce style gouailleur pour les hommes est tragique pour les femmes. C'est cette distinction quand même qui je ne sais pas si ça a frappé d'autres gens, certainement. Moi, je ne suis pas un expert en chanson française, mais il est certain que les grandes chanteuses tragiques...
Comme Damien, comme Frel...
Et Miss Tinguette, à ses débuts, étaient issues des faubourgs, et c'était des femmes de très grand caractère, très, 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 très solides, très fortes, avec des histoires vraiment tragiques, d'alcoolisme, de drogue, d'amour déçu, qui faisait vraiment pleurer, hein, réellement. Et d'un autre côté, Maurice Chevalier, Georgius, c'est des chansons plus soit satiriques, soit comiques, carrément. Oui. Voilà, bon, avec plus de. Il y a de la joie, prospère, bon, avec des jeux de mots, avec surtout une satire de. Une satire de toute la société. Et même, surtout une satire, en fait, des milieux populaires.
L'on se voit, l'on se plaît tout de suite. L'on s'est rencontré par hasard. À la barrière, l'on aime vite. Il suffit souvent d'un regard. On s'adore, on se le prouve. Sur les fortifs, un peu partout. Lorsque l'on a tous deux les mêmes goûts, du bonheur joyeux l'on éprouve. C'est un rêve, un bien beau rêve, dans lequel on vit tous les deux. Le bonheur jamais ne s'achève, on existe le cœur heureux. On donnerait sa vie entière pour mieux s'adorer tous les jours. C'est ainsi que l'on fait toujours l'amour à la barrière. Mais au bout d'une semaine, l'on s'aperçoit qu'il faut manger. Au départ, la bourse était pleine, mais elle commence à s'alléger. Il dit à la chère petite, il faudrait aller travailler. À nous deux, nous pourrions gagner assez pour devenir riches bien vite. C'est un rêve, un bien beau rêve, dans lequel on vit tous les deux. Le bonheur jamais ne s'achève, on existe le cœur heureux. On donnerait sa vie entière pour mieux s'adorer tous les jours. C'est ainsi que l'on fait toujours l'amour à la barrière. Cependant, bientôt, elle se lasse de lui rapporter son argent, d'être toujours dans la mélasse, d'être battue par son amant. Alors sans tambour ni trompette, elle s'enfuit avec son copain. Pour lui faire passer le goût du pain, monsieur la cherche au bal musette. Adieu le rêve, le bien beau rêve, dans lequel on vivrait tous les deux. Le bonheur à jamais s'achève, on est seul le cœur malheureux. On ne peut plus sortir de l'ornière, on pleure de chagrin tous les jours. C'est ainsi que finit toujours l'amour à la barrière.
Donc ça, c'est une chanson... Ah ouais, puisqu'on parlait de la prostitution...
L'amour à la barrière, c'est une chanson qui a été écrite par une prostituée qui s'appelait Louise Régnier,
Elle a écrit Saint-Tol ou...
Elle a écrit ça en prison. Elle a dédicacé d'ailleurs à toutes les prévenues, je cite, à toutes les prévenues qui s'emmerdent. Et je pense elle était à Saint-Lazare. La prison des femmes, à son époque, était à Saint-Lazare.
C'est vrai, c'était plus
la petite roquette, on va le voir tout à l'heure, c'était la prison des mineurs, des enfants,
dire,
parce qu'on pouvait y aller à 12 ans. Donc cette chanson, je vais vous lire la description que Chotard fait de Louise Régnier, qu'il a sans doute connue. Donc voilà comment il en parle. Louise Régnier, belle fille robuste et remuante, cambrioleuse à la poigne solide, ne craignant pas de se flanquer un coup de torchon avec ses semblables et se bigorner même un bonhomme lorsque l'occasion se présente. Louise avait un amant nommé l'araignée, qui était son bourreau. Las des coups de poignard, environ 60 reçus, dont son Jésus l'a gratifié, la fille lâcha son amant, qui résolut de lui faire payer cher son abandon, recherché par la police pour des cambriolages. Le voleur fut arrêté avenue Jean Jaurès le 3 septembre 1902, alors que pour se venger, il pourchassait son ami, un long couteau à la main, dans l'intention de lui faire passer le goût du pain. N'ayant pu réussir son acte criminel, le malfaiteur dénonça et fit coffrer Louise comme étant sa complice dans de nombreux vols avec effraction et attaques nocturnes, forfait dont ils s'accusèrent mutuellement plus tard d'ailleurs. Voilà ce qu'en dit Chotard. Mais elle, on va voir dans la chanson, elle le voit autrement. Son proxénète et son complice dans des violences et des cambriolages, elle le voit vraiment comme une passion qu'elle a eue et comme un rêve, un bien beau rêve. D'ailleurs, c'est la rengaine de la chanson. Et elle l'a écrite en imitant un peu donc les chanteuses de l'époque. Donc elle reprend un peu les clichés de l'époque, un peu fleur bleue, un peu comme ça, mais qui sont tragiques dans la mesure où ils décrivent la vie de gens qui n'y avait pas d'aide sociale, il n'y avait rien, il fallait se débrouiller, c'était la débine, quoi, il fallait se débrouiller. Et elle ne le regrette pas, il n'y a pas de moralisme ou quoi que ce soit. Elle dit c'est dommage qu'on soit obligé d'en arriver là, mais elle ne dit pas je regrette.
Il faut rappeler du coup que la barrière, c'est la zone, quoi, c'est cette espèce de zone entre les portes de Paris
avant pour rentrer dans Paris,
villages de banlieue,
il fallait passer par
l'octroi.
Par l'octroi, c'est-à-dire il fallait payer, quand on amenait des marchandises, il fallait payer une taxe. Et ça a été supprimé au XIXe siècle, mais on continuait d'appeler la zone qui est maintenant occupée par le boulevard périphérique du nom de fortifs ou de barrières, parce qu'il y avait aussi les fortifications militaires. On avait commencé d'entourer, sous Napoléon III, on avait commencé d'entourer Paris de fortifications, quand jamais été terminées.
Et qui se sont révélées tellement utiles en 1870.
En 1870, ils sont révélées inutiles parce que le gouvernement a trahi la population, c'est pour ça qu'il y a eu la commune. Mais donc on disait les fortifs. Après, quand elles ont été démolies, après la guerre de 14, on s'est rendu compte qu'avec la guerre moderne, elle servait absolument à rien, avec l'aviation et la grosse Bertha qui envoyait des obus à 60 km. Quand elles ont été démolies, le chantier que ça a été, on a construit progressivement des logements sociaux, les premiers logements sociaux parisiens dessus, mais c'était aussi des vastes terrains vagues, donc où se réunissaient les petits voyous. Il faut lire la meilleure description, c'est Auguste Le Breton, c'est un bouquin qui s'appelle Fortif, où il raconte la vie des gens qui avaient absolument aucun argent et qui venaient et qui se réunissaient, donc un peu comme des bandes de racailles, hein, voilà. Donc, sauf qu'à l'époque, ils n'avaient pas de Nike, ils n'avaient pas de survette Jordan, ils avaient des espadrilles.
Et des casquettes trois ponts.
Les casquettes trois ponts et tout l'attirail des Apaches, c'est très différent. Ça signifiait qu'on avait déjà réussi à gagner un peu d'argent, soit par le proxénétisme, le plus souvent, soit par les vols et les cambriolages. Les agressions, parce que c'était les Apaches, donc il faut qu'on en parle, ils sont au centre du livre et des chansons, on peut les considérer comme des dandies, en fait. C'est-à-dire que leurs casquettes à trois ponts, leurs foulards, leurs écharpes dont ils saignaient la taille, elles étaient en soie, et c'était, tout était cher. C'était, voilà, ça, là, c'était plutôt le côté
flamboyant
du rappeur, mais surtout le
swag.
Le swag, le cacou, bon, mais avec un très net rapport, il y a deux... Donc c'était la première subculture... en tant que telle, qui s'identifie à partir d'une mode vestimentaire et de goûts musicaux, le musette, et qui rappelle un peu bon, les Teddy Boys qu'il y a eu dans les années 50 en Angleterre, qui s'habillaient édouardiens avec des vestes rouges, vifs, violettes, et qui étaient des délinquants juvéniles aussi, hein, pour la plupart, ou les Pachucos, qu'il y a dans les États où il y a des Chicanos aux États-Unis, et avec les Zoot Suit, donc comme les Azou un peu en France, les voitures incroyables. Enfin, il y a une culture du paraître qui commence donc à peu près à cette époque, à l'époque des Apaches, dans la classe ouvrière, surtout celle qui va chercher de l'argent réellement, qui c'est pas avec un salaire de l'usine de l'époque qu'on pouvait se payer les vêtements des Apaches. Et surtout ces vêtements, non seulement ils étaient coûteux et prestigieux, mais ils se distinguaient complètement de l'élégance, on va dire de l'ennemi, l'élégance
du bourgeois,
du faubourg Saint-Germain, l'élégance des beaux quartiers, et une élégance plus raffinée, c'est les grands en chamois beurre qu'on jette au bout de trois jours. C'était vraiment la soie, le truc. Bon, il y avait encore il y avait deux dandismes qui s'opposaient, celui, bon, on va dire des camelots du roi, des jeunes bourgeois et fils d'aristocrates, et celui des fils du faubourg qui étaient souvent d'origine soit étrangère ou provinciale, quoi. Bon, les cas de Casque d'Or, c'était un Corse, etc.
Donc qui écrivait des chansons lui-même, d'ailleurs.
Mais écrire une chanson, à l'époque, c'était... C'est un peu comme le rap, maintenant, dans les cités. Ça n'avait rien d'incongru, c'était normal, c'était un mode de communication, et c'était aussi une manière une autre manière de chercher un peu de prestige, quoi, de se la péter, quoi.
Mes bons amis, je vais vous conter l'histoire d'un de mes poteaux dont l'idée désolée de se voir saper à faire 20 ans de dû. C'est du Charlot que je veux vous parler. Il avait fait 8 marques de prévence, ayant toujours l'idée de s'évader. Mais faible espoir et maudite espérance, car il se voit tout seul et enfermé. Mais faible espoir et maudite espérance, car il se voit tout seul et enfermé. Sitôt sapé, on lui dit qu'il s'apprête pour son transfert dans le noble panier, qu'il conduira tout droit à la roquette avec tant d'autres comme lui condamnés. Figurez-vous qu'à la grande rotonde, on passe de suite aux mains du perruquier pour qu'il vous rase, ensuite qu'il vous tonde comme des moutons que l'on mène au marché. Pour qu'il vous rase, ensuite qu'il vous tonde comme des moutons que l'on mène au marché. Mes bons amis, je finis là l'histoire de ce Charlot, de ce pauvre malheureux qui en rallonge, ayant toujours l'espoir de s'en sortir avant qu'il soit trop vieux, de se revoir au milieu de sa bande à la Courtille où il a fréquenté, pour leur crier les amis morts aux vaches, et pour les hommes vive la liberté, pour leur crier les amis morts aux vaches, et pour les hommes vive la liberté.
C'est Totor, t'as deux mots à dire sur cette version. Ça, c'est une chanson dans le dont la mélodie a été notée, non? Parce que c'est une, oui, c'est une vieille mélodie du 19e.
C'est une mélodie qui date de Napoléon, et c'est une chanson détournée donc d'une chanson très célèbre au 19e siècle, dont j'ai oublié le titre, je m'excuse, mais qui était sur un grognard de Napoléon qui, après 1815, donc après la fin des guerres napoléoniennes, se retrouve au chômage. Il y a plein de chansons aux États-Unis sur des vétérans du Vietnam, ouais, qui se retrouvent amputés. C'est un peu le même thème qui a toujours fait pleurer dans les chaumières, évidemment, le thème du héros militaire qui se retrouve avili, amoindri. Mais là, c'est encore autre chose, parce que l'amoindrissement et l'avilissement, il vient pas de la trahison, en quelque sorte, du gouvernement, il vient de la prise de risque que prenaient les voyous. Le voyou de l'époque, peut-être un peu maintenant aussi, il savait qu'il allait passer pas mal de temps en prison au départ.
C'est écrit.
Il y a une sorte de fatalisme.
Fatum, ouais. Voilà. Fatalitas, comme dirait Charlie Vivi.
Et en fonction de la gravité, on avait difficile fait de donner un coup de couteau ou des choses comme ça. Les tribunaux étaient extrêmement sévères. Et donc, il y avait évidemment la bascule à Charlot, c'est-à-dire la guillotine. Et il y avait les déportations au bagne, soit en Nouvelle-Calédonie, soit après à Cayenne et dans les îles du Salut, au large de Cayenne. Et qui était une punition terrible. C'est-à-dire, on était déporté dans des enfers tropicaux, dévoré par les moustiques. Il y avait un taux de survie...
Sans compter qu'une fois que sa peine accomplie, on n'avait plus pas la possibilité de revenir, puisqu'il fallait s'inquiéter.
On pouvait être condamné à la déportation, voilà, et à la relégation.
Et
à la relégation, ça veut dire qu'ils cherchaient des gens pour coloniser ces coins pourris de moustiques, là, maintenant où il y a des fusées qui partent et tout, mais à l'époque, c'était pas pareil. Et donc, la seule manière, c'est comme avait fait Louis XIV et le régent, c'est de déporter de force les gens et les obliger, comme les Anglais l'ont fait en Australie. L'Australie a été colonisée par des bagnards, pour la plupart irlandais, qui après se sont établis. C'est tellement loin que c'était très difficile de revenir de toute façon. Certains l'ont fait, hein. Il y a des histoires d'évasion extraordinaires, comme celle de Papillon ou de...
Le
Dieudonné de la bande de Bonneau. Mais il fallait une force, une intelligence, des capacités de survie.
Et un coup de bol.
Et la chance, comme en tout, pour survivre aux Indiens sauvages, aux Caïmans, à la jungle elle-même. Les voyous, les petits voyous, ils savaient qu'ils allaient en prison. Et c'est en prison que se construisait la culture, et notamment l'argot. Parce que l'argot, au départ, il sert à ne pas être compris.
Depuis l'époque médiévale.
Voilà, depuis les coquillards, depuis l'époque de François Villon. Donc les coquillards, c'est la manière dont on a appelé des bandes de malandrins, de truands itinérants, et qui avaient des points d'assemblée qu'on appelait la Cour des Miracles. Il y en avait dans chaque ville, et à Paris, il y en avait dans plusieurs quartiers. La plus célèbre étant celle qu'il y avait au pied de Notre-Dame, parce qu'elle a été immortalisée par
Victor Hugo. Ouais.
Mais évidemment, elle n'existait plus du tout, celle-là, à l'époque même de François Villon. Donc il y a beaucoup d'anachronismes dans Victor Hugo. Toujours est-il que cet argot, il est basé donc sur ce jargon des coquillards, l'argot parisien, et il va s'enrichir petit à petit d'élocutions provinciale, étrangère, à cause de la colonisation, donc les Kabyles. Et puis, depuis les coquillards étaient itinérants et donc étaient en rapport avec les tziganes de l'époque, Esmeralda dans Notre-Dame de Paris. Et donc, il y a toujours eu des emprunts linguistiques, des classes dangereuses, on va les appeler comme ça maintenant, de la racaille, des truands, des voyous, aux tziganes, parce que il y a un mode de vie assez similaire. Mais en fait, quand on creuse, non, c'est très différent. Les tziganes ont su conserver une culture, un mode de vie, un rapport à la société qu'ils ont su conserver presque jusqu'à maintenant. Tandis que là, c'était juste parce qu'ils se côtoyaient dans les prisons et dans certains quartiers. Et donc, que ces mots sont passés. À noter que, par exemple, à Montreuil, qui est de nos jours, donc, Montreuil, c'est une ville où il y a une forte minorité de tziganes, y compris sédentarisés. L'argot de Montreuil, c'est, c'est peut-être l'argot le plus, celui qui est resté le plus argotique, le plus vernaculaire. C'est-à-dire, bon, les gens sont, il y a des t-shirts, Narvalo, Montreuil, et ça vient de là, ça vient du fait que bah, les gosses des tziganes sédentarisés allaient dans les mêmes écoles que les gosses des ouvriers membres du Parti communiste français et de la CGT. Et que c'est là, et donc il y a une sorte de melting pot linguistique qui fait que là, bon, l'argot actuel, il est. Et quand même, les mots qui sont le plus restés de l'ancien argot dans l'argot actuel, et qui même certains sont revenus, c'est les mots tziganes. Le dab, les maraves, moukav,
machav,
et c'est cet argot, c'est l'argot moderne est essentiellement constitué de ça, plus de mots arabes évidemment, et maintenant de mots bambara, parce qu'il y a beaucoup de maliens à Montreuil, mais. Essentiellement, on peut dire que ça tourne autour les principales expressions, y compris quand ce sont des gens d'origine africaine ou nord-africaine qui les parlent, ça reste quand même les mots de tzigane. C'est un argot qui est extrêmement appauvri, beaucoup moins poétique que ce qu'il était à l'époque des Gualanques.
Qui n'avait que d'Irad, je vais vous montrer un chouette courant pour abreuver les camarades. Au plus bas bleu, c'est délirant. Quand votre gonzesse vous entortille, filez à gauche de la courtille, vous payez un coup d'arrosoir. À l'assommoir, faut pas blaguer le trépé de batte. Dans cet odion où il se trouve des rupins, si quelque gonzier traîne la savate, j'en ai brisé comme des escarpins. Pour lâcher d'un cran, genre canaille, il leur manque des gants de paille. Mais on n'est pas tenu d'en avoir. À l'assommoir, les ménesses s'en bombent par douzaines, renifler leur petit fat de daf. Si leur chasse coule comme des fontaines, une chopine ne leur colle pas le taf. Des fois quand le temps se tourne à la lance, c'est épatant comme tout ça danse. V'là coup dur du matin au soir. À l'assommoir, genre mouche qui frise pas mal leur naze, à cause des propos incongrus. Mon chiffon qui n'aime pas la gaz, leur lâche un mot un peu trop cru. C'est que j'ai fait foi de fanfan de chaloupe, mais d'études au camp de la loupe. Aussi je connobre ce qu'on doit savoir. À l'assommoir. Bon, à douille blanche, sitôt qu'ils ont du calme de trop, n'attendent pas fête et dimanche pour y pincer un coup de sirop. Après tout, moi je les excuse, faut bien que vieillesse s'amuse. Elle tient si proprement le crachoir. À l'assommoir, comme je me fais fil la licence, je me pousse quelquefois de ce côté-là. Un courant n'est pas plus que sa chance. Je visite les amanches et voilà. Ces gens d'aucun trait de crapule, moi je traque avec eux sans scrupule. on est égal devant l'abreuvoir. À l'assommoir. On est égal devant l'abreuvoir. À l'assommoir.
Par rapport à l'argot, tu parlais tout à l'heure de Paris comme ville lumière, enfin ville universelle. Il y a eu d'autres villes universelles. À un moment donné, Barcelone a eu son rôle, y compris son Barriocino. Berlin, que ce soit dans l'entre-deux-guerres ou dans les années 80, que ce soit Londres à l'époque des années 60. Est-ce que cette espèce de spécificité parisienne n'est pas due justement à son langage, chose que peut-être les autres villes n'ont pas eue? Même si chaque ville a eu, je veux dire, le Barriocino avait son langage aussi, Berlin, je ne sais pas, mais j'imagine bien. À Londres, le Cockney, c'est autre chose aussi. Mais,
c'est des ports. Il y a, on va dire, Hambourg, plus oui. que Berlin, je pense, et qui était une ville vraiment de voyous et de.
Des années 20, ouais.
Un peu comme Marseille. Mmh. Donc, je pense Le Havre, un autre port, mais en plus petit, évidemment, devait être assez dur. Les dockers du Havre, tout ça. Quant à Londres, bon, ou New York, et Paris, à l'époque, c'est des villes qui se comparent à aucune autre ville. Parce qu'il n'y a pas de ville aussi grande, déjà. Il y avait une population dans le monde entier, même en Chine, même en Inde. Et surtout, c'est des villes centres. C'est-à-dire que New York, un peu moins, mais New York, c'est surtout le centre de la côte Est. Mais Londres, c'est vraiment la principale ville où il y a le pouvoir, la bourgeoisie, c'est pas très loin des principales universités. Donc c'est des villes centres. Mais c'est des villes qui vont imiter Paris. C'est-à-dire, bon, cabaret, bon, presque tous les mots du showbiz de l'époque, c'est mots français. Quand même, le French cancan, tout ça, c'est des choses qui sont. C'est quand même Paris qui est le repère. Et qui est considéré universellement aussi comme la ville de la débauche. Il ne faut pas l'oublier, c'est ça. C'est ça. Donc les lords anglais, les Junkers allemands, prussiens,
les grands ducs russes,
ou les Espagnols, tout ça. Bon, voilà, ils venaient à Paris pour s'encanailler parce que il y avait beaucoup plus de laxisme et en particulier pour une vieille tradition en France de pas emmerder les riches et de pas emmerder les touristes qui viennent dépenser énormément d'argent. Mais ces gens-là ne venaient pas s'encanailler peut-être, mais très peu, dans les bastings, c'était beaucoup trop risqué pour eux. Ils allaient s'encanailler parce qu'il n'y avait pas, comme à Pigalle ou à Montmartre, il n'y avait pas à Londres 30 maisons closes autorisées, donc, et 30 spectacles de nus, de tout. Bon. C'était une ville de débauche. C'est ça aussi qui fait ça. C'est aussi la grande Babylone. Donc, et Londres et New York ne seront comme ça réellement que beaucoup plus tard dans les années 60. Hein. À l'époque, à Londres, les quartiers populaires, Whitechapel, les quartiers de l'Est londonien, il y a effectivement beaucoup de points communs avec les quartiers populaires parisiens. Mais il y a la culture cockney qui se rapproche, qui est un peu l'équivalent de la culture parisienne. Populaire, mais il n'y a pas cette flamboyance, quoi, voilà, on va dire ça. Et on est dans une société beaucoup plus puritaine, où les cafés ferment tout l'après-midi pour pas que les gens ils aillent au café au lieu d'aller à l'usine. Donc, et ça n'a changé que sous Thatcher, même pas une trentaine d'années. Donc, c'était beaucoup plus difficile. À Paris, il y a une vieille tradition, évidemment, de débauche, d'amusement, de flambe.
Il y a deux choses dont il est beaucoup, beaucoup question dans le Chauteur. Bon, il y a évidemment la prison qui est omniprésente, et sur la fin, une chose qui est bonne de rappeler, et d'ailleurs, il n'y a pas de chanson sur le sujet, c'est les badafs, ou ce qu'on appelle les joyeux à Paris. C'est-à-dire que les conscrits de la région parisienne, en tout cas d'une certaine, les gars qui vont faire le service militaire, quoi, l'armée, qui à l'époque a duré 2 ans, au bas mot, on les envoie
dans les bataillons disciplinaires.
Dans les bataillons disciplinaires d'office. D'autant, les gars de l'Est parisien, ils sont bons pour partir à Biarébi, quoi.
Donc il y avait le bagne et la prison, comme perspective presque certaine. Et pour ceux qui avaient commencé vraiment tôt, donc, et qui étaient en maison de correction et tout, ils sortaient de la maison de correction à l'âge du service militaire, et on les envoyait 2 ans en Afrique du Nord, en Tunisie essentiellement, et dans le désert et tout. Et c'était une manière de perpétuer la punition, mais aussi d'avoir des troupes extrêmement endurcies. Et c'est ces troupes-là qu'on voit envoyer en première ligne.
C'est les bataillons de choc, quoi.
Qui ont peur de rien, parce qu'ils ont déjà vécu l'enfer.
Oui, d'où le mythe sur la Légion étrangère et tout.
La
Légion étrangère, c'est encore autre chose, c'est dans le même cadre.
C'est complètement différent, dans la mesure où c'est des étrangers. Et les Bagdaf, la Légion peut paraître dure, mais c'était un hôtel 4 étoiles par rapport au bataillon disciplinaire. C'est un mélange de camps d'extermination et de bagne militaire. Et les conscrits menaient vraiment une vie de bagnard dans les Bagdaf, d'où tous les tatouages, tout ça. Bon.
Je m'en souviens bien, c'était au petit jour, la nuit se mourait dans une fin de vadrouille de Belleville à Charonne. Toutes les filles d'amour sapées comme des reines pleuraient leurs arsouilles. Daron et Tadab et ton petit frère ne m'avaient pas lâché. Dans cette averse-là, 3 ans pour le kef, c'est une sale affaire, j'aurai 3 ans de plus quand tu reviendras. Le long des fortifs, devant le bastion, on s'était groupés comme des fantômes. Les mouflettes chialaient un peu sans raison, car à cet âge-là, on ne sait rien d'un homme. Le grand bâtiment, plus noir que mon cœur, comme une prison, se dressait dans la sorgue. C'était, on peut le dire, aussi enchanteur que d'aller casser la croûte à la morgue. Encristé par 4, entre les griffetons, je t'ai vu passer comme à la sauvette. Et puis les tambours avec les clairons firent brailler en cœur toutes les fillettes. Le refrain des joyeux nous tenait par le bras, car c'était l'espoir que chantait la clique, l'espoir de la classe quand elle reviendra avec des souvenirs à mettre en musique. Ça fait 40 berges que j'attends ton retour. Tes dragueuses m'ont dit, vu les circonstances, qu'on t'avait nommé général un jour. On a vu des choses beaucoup plus marrantes. Ce genre de salade, et ne me dis rien de bon, ce n'est pas tout ça qui me donne du courage. Si tu ne reviens pas, général ou non, j'irai me foutre à l'eau ou faire des ménages.
Tous les grands, les truands les plus célèbres des années 40 et tout, avaient tous fait les Bagdaf.
Oui, tous les Pierre Lefou.
Joatien, Pierre Loutrel, ouais. Tout ça. Ouais. Ils étaient tous passés par là et ils se considéraient eux-mêmes comme une sorte d'aristocratie de ceux qui étaient revenus de l'enfer.
Et ça a été très chanté, alors là, c'est pas le cas dans le disque qui accompagne, mais ça a été chanté par des gens qui a été écrit des chansons pour des gens comme Macorlan, comme Carco, sur cette espèce de. Comment dire, sur cette sorte de pittoresque aussi, du Bagdaf, de folklore tragique, alors qu'en fait, c'était essentiellement du sordide, comme le décrit Schotter.
Oui, bien sûr, c'est essentiellement de la souffrance, du désespoir, les gens qui partaient là-bas et qui restaient 2 ans. En plus, ils y restaient plus que 2 ans, parce que fatalement, ils se révoltaient, et quand ils se révoltaient, ils prenaient du rabiot. Donc des fois, le but de l'opération, c'était très souvent de les faire crever, quoi. Bon, rien que le fait d'avoir survécu à l'enfer, ça vous posait un homme. Et c'était comme ça. Revenir du bagne, c'était encore plus rare, il fallait s'être évadé, quoi, grosso modo.
En t'écrivant ces mots, je frémis par tout mon être. Quand tu les liras, j'aurai mis le nez à la fenêtre. Je suis réveillé depuis minuit, ma pauvre Toinette. J'entends comme une espèce de bruit à la roquette. N'aura pas voulu signer ma ma grâce. Sans doute que ça y aura des plus que je me la casse. Si on graciait à chaque coup, ça serait trop chouette. Temps en temps, faut qu'on coupe un coup à la roquette. Là où le soleil blanchit les cieux, la nuit s'achève. Ils vont arriver, ces messieurs, v'là le jour qui se lève. Maintenant j'entends distinctement le peuple en goguette qui chante sur l'air de l'enterrement à la roquette. Tu vois tout ça, ça ne me fait rien, ce qui me paralyse, c'est qu'il faut qu'on coupe avant le mien col de ma chemise. En pensant au froid des ciseaux à la toilette, j'ai peur d'avoir froid dans les os à la roquette. Aussi je vais me raidir pour marcher sans que ça m'émeuve. C'est pas moi que je voudrais flancher devant la veuve. Qu'on dise que j'ai eu le trac de la lunette avant d'éternuer dans le sac à la roquette. Avant d'éternuer dans le sac à la roquette.
L'autre horizon indépassable, il y a la culture de la bainsoire à Charlot, de la veuve, de la guillotine. C'est ce qui fait l'avenir social du petit gars de la barrière, son horizon ultime.
Oui, il y a une sorte de prestige, même à être condamné à mort, ça veut dire qu'on a vraiment...
Été reconnu comme un vrai de vrai.
Voilà, c'est le stade. Bon, la vie a beaucoup moins de prix à cette époque. Les perspectives de carrière des gens qui sont nés dans le prolétariat sous-qualifié de l'époque sont nulles, mais absolument nulles, à part peut-être l'armée, justement, ou la police. Et c'est vrai. Et donc, la police recrutait beaucoup en province pour accentuer l'antagonisme, comme on met toujours des gendarmes, encore de nos jours, à ma connaissance, qui ne sont jamais originaires du coin. Donc, pour qu'il y ait plus de séparation, pour éviter aussi la corruption, hein, les pots de vin, tout ça. Et donc, il y avait quand même beaucoup de gens du peuple, hein, qu'ils soient provinciaux, paysans ou des villes, qui s'engageaient dans la police et qui avaient l'avantage donc, de connaître l'argot. Il y a énormément d'espions, il y a énormément
de mouchards,
d'indicateurs de police. Qui parfois inventaient et tout. Enfin, bon, à l'époque, il n'y avait pas de micro ni de caméra pour. On les croyait sur parole. Ouais, donc tout le monde se méfiait un peu de tout le monde à cause de ça. Mais il y avait des règles très fortes. C'est-à-dire, pour éviter justement cette déviation des enfants du quartier, des enfants du faubourg qui rentrent dans la police, qui trahissent en quelque sorte en faisant ça. Il y a une sorte de haine des flics dont on n'a pas idée. Quand on voit des étudiants ou des autonomes à crier « tout le monde déteste la police », c'est beaucoup moins vrai
que
ce ne le fut à l'époque. Mmh. À l'époque, si on était vu en train de serrer la main ou de parler ou de demander son chemin à un policier, plus personne ne vous parlait. Un peu comme un briseur de grève chez les mineurs du Yorkshire. Si si on était soupçonné d'avoir dénoncé qui que ce soit, il fallait changer de quartier, parce que là, non seulement vous ne parlez plus, mais à tout moment, on risquait de prendre un coup de couteau. Il y avait un ostracisme de tout ce qui a un rapport avec l'autorité, qui était extrêmement fort, qui était à la base de la cohésion sociale de toutes ces bandes.
Et pour revenir à cette peine de mort qui était l'horizon social, je me rappelle plus à partir de quelle époque ils décident que les exécutions ne seront plus publiques.
Ça, c'est plus dans les années 30.
Hein. C'est plus dans les années 30, ouais, d'accord. Donc, il y a aussi cette sorte de savoir mourir avec plus ou moins de bonheur face à l'échafaud, comme dans la chanson. C'est pas moi qui vais trembler devant la veuve.
C'est pas moi qui vais trembler devant la veuve, mais j'aurais peur quand même au moment où ils couperont le col de ma chemise.
Ouais.
Parce que là, il y a une dégradation. Comme quand on vous arrache vos galons, il y a quand même. Voilà, bon, c'est ça le moment où il ne redoute pas la mort. Il sait que de toute façon, il allait mourir jeune et faire un beau cadavre. Mais il redoute la dégradation et d'avoir peur de flancher devant la veuve, c'est-à-dire de ne pas...
De pas bien se tenir.
C'est un truc extrêmement machiste. Hein, bon, mmh. Et voilà, et d'être moqué après sa mort. Quoi. Donc il y a une... Il y a la réputation, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc il ne faut pas avoir la réputation d'être une balance, il ne faut pas avoir un cousin qui est dans la police, il ne faut pas avoir peur de mourir, faut pas que, c'est presque déshonorant de prendre un avocat. Il y a vraiment un fossé énorme entre l'autorité de l'État, la justice, la police et l'administration générale. Et ces gens-là qui se sentent complètement exclus, laissés pour compte, donc c'est pas eux, ils ont leurs propres règles, ils ont leurs propres codes, et ils savent, ils l'appliquent à leur manière très, très, très brutale, mais c'est codifié, on peut pas faire n'importe quoi. On s'attaque pas aux enfants, par exemple. Bon, les trucs crapuleux sont moqués. Évidemment, souvent, nécessité fait loi, et des crimes crapuleux, il y en a eu beaucoup, mais d'un autre côté, c'est pas ceux qui... voilà, une bagarre entre bandes où il y a des morts, là c'est une belle manière de mourir.
Ouais, c'est historique, quoi. Et il y a des exécutions qui donnent lieu à des émeutes, puisque en particulier, on se souvient de l'exécution de Liabeuf, si je me rappelle bien.
Liabeuf, on a fait aussi un livre sur Liabeuf.
Il y a longtemps, ouais.
Il y a une vingtaine d'années. C'est un cas à part, parce que c'était un ouvrier, et un ouvrier qualifié, puisqu'il était cordonnier. Et il a été en contact avec des flics qui l'ont calomnié. Sur des histoires de femmes d'honneur, donc aussi.
Qui ont essayé de le faire passer pour un macro, quoi.
Donc ça n'était pas un truand. Il a pris un coup de colère, et avec ses outils de cordonnier, il s'est fabriqué une armure à pointe, et il a cherché les deux policiers dont il voulait se venger, et il en a tué un, il a grièvement blessé l'autre, et il avait aussi un petit pistolet. Quand les autres policiers sont venus pour l'arrêter, il a tiré sur les policiers, donc il ne pouvait pas échapper à la peine de mort. Mais lui, je ne pense pas que c'était son... Je pense pas qu'il venait d'un quartier populaire, tout ça, mais il était honnête, il gagnait honnêtement sa vie. Il n'avait pas cette mentalité-là. Et c'est au contraire d'avoir été accusé d'être un proxénète qui a déclenché sa colère. Parce qu'il y avait aussi...
Mais toujours est-il que sur l'exécution,
il y avait une dignité ouvrière honnête aussi. Mmh. C'est-à-dire, bon, pour un honnête ouvrier, la prostitution et le proxénétisme, en tant que résidu judéo-chrétien, en quelque sorte, c'est quand même déshonorant. Mais pas pour les Apaches.
Dans la grande ville de Paris,
dans la grande ville de Paris,
il y a des bourgeois bien nourris,
il y a des bourgeois bien nourris.
Il y a les miséreux qui ont le ventre creux, ceux-là on les dans longue,
vive le son, vive le son.
Ceux-là on les dans longue, vive le son de l'explosion.
Dansons la ravachole, vive le son, vive le son. Dansons la ravachole, vive le son de l'explosion.
Il y a les magistrats vendus,
il y a les magistrats vendus.
Il y a les financiers ventrus,
il y a les financiers ventrus.
Il y a les argousins, mais pour tous ces coquins, il y a de la dynamite,
vive le son, vive le son.
Il y a de la dynamite, vive le son, l'explosion.
Dansons la ravachole, vive le son, vive le son. Dansons la ravachole, vive le son, l'explosion.
Il y a les sénateurs gâteux,
il y a les sénateurs gâteux.
Il y a les députés véreux,
il y a les députés véreux.
Il y a les généraux, assassins et bourreaux. Boucher en uniforme,
vive le son, vive le son.
Boucher en uniforme, vive le son de l'explosion.
Dansons la ravachole, vive le son, vive le son. Dansons la ravachole, vive le son de l'explosion.
En nom de Dieu, faut en finir.
En nom de Dieu, faut en finir.
Assez longtemps, j'aimerais souffrir.
Assez longtemps, j'aimerais souffrir.
Pas de guerre à moitié, plus de lâche pitié. mort à la bourgeoisie,
vive le son, vive le son.
Mort à la bourgeoisie, vive le son d'explosion.
Dansons la rabachole, vive le son, vive le son. Dansons la rabachole, vive le son de l'explosion.
Et donc c'est là qu'à l'époque se fait cette sorte de barrière qu'il y a entre les anarchistes, la culture anarchiste qui est fort populaire à l'époque et la culture des Apaches qui fait que ça ne se rejoint pas.
Non, voilà, les anarchistes sont extrêmement honnêtes.
Les anarchistes sont extrêmement, enfin, honnêtes. Ils n'hésitent pas à la cambriole aussi ou certaines choses, mais on n'est pas dans le même code. Voilà.
C'est l'expropriation et la propagande par le fait. Ils sont punis les deux par le code pénal, mais ils sont vécus par les anarchistes comme des actes sociaux, comme des actes militants. Et avec l'argent, l'exemple du cambrioleur Jacob, mais il y en a plein d'autres, avec l'argent, on ne va pas flamber, on va financer la presse anarchiste, on va aider des prisonniers anarchistes, on va aider des grèves où il y avait beaucoup moins de fonds de soutien à l'époque. Donc c'est très différent. Les anarchistes, au contraire, vouaient un culte au savoir, à une sorte d'harmonie sociale,
à la science.
Raymond Calmin, Raymond La Science, donc de la bande à Bonneau, on sait par le médecin de la santé, qui se ruinait, qui mangeait pas pendant une semaine pour avoir une place au poulailler, à l'opéra, parce que la culture qu'il appréciait, celle qu'il admirait, c'était la culture de l'ennemi, en quelque sorte. C'était pas la culture prolétarienne, c'était Verdi, c'était Beethoven, c'était ça. Donc on voit qu'il y a un énorme hiatus. Dans la même famille, il pouvait y avoir un anarchiste, un honnête ouvrier apolitique, comme la plupart étaient, hein, en fait, et un gars qui a mal tourné, ou une garce qui a mal tourné. Et surtout les femmes. Pourquoi ? Parce que les salaires féminins sont inférieurs de nos jours, mais à l'époque, c'était extrêmement inférieur. C'est-à-dire que une femme seule, sur son salaire, ne pouvait pas manger, tout simplement. C'était un revenu d'appoint dans un ménage ouvrier. Et ces ménages ouvriers, la plupart du temps, ça aussi, c'est quelque chose qui est une sorte de rupture, de distanciation. Et n'était pas marié, donc on a une culture du concubinage qui frôle un peu celle du proxénétisme. On voit des fois la différence. Des fois, il y a du proxénétisme et de la prostitution occasionnelle, parce qu'il n'y a rien, il faut faire tourner la marmite, mais avec regret et tout. Alors que les Apaches, les vrais truands, ceux qui se revendiquent comme tels, au contraire, pour eux, c'est... plus on a de femmes sur le trottoir, plus on a de prestige, mais entre eux.
Ben, juste du coup, la page, c'est vraiment lié à la figure du proxénète, enfin,
Oui, absolument. Bon, le proxénète, il y a une typologie assez simple à faire du proxénète, qu'on retrouve aussi, peut-être même de nos jours, mais peut-être moins maintenant. Mais c'est quelqu'un qui est beau gosse en général, pour que justement il puisse... Donc il va être aussi élégant. Donc il a une sorte de dandysme. Et ce dandysme, comme souvent chez les dandys, il se traduit par une sorte de critique en acte du travail. C'est-à-dire que le déshonneur, à la fois pour les anarchistes, l'honneur c'est de travailler, de produire, pour les honnêtes ouvriers, ceux qui croient en Dieu, tout ça, donc c'est le travail est rédempteur. Mais pour les truands, pour les pègres, c'est une honte, c'est une abomination. Et l'idéal de la vie, c'est de passer la journée au bistrot à jouer aux cartes entre amis et à se raconter des trucs, bon voilà, à boire. Et puis voilà. Donc on n'a pas parlé des assommoirs. Il y a l'assommoir de Belleville qui raconte qui décrit plutôt la clientèle d'un bistrot parisien avant l'interdiction de l'absinthe, qui a été interdite pendant la fin de la guerre de 14.
Ah, je crois que c'était Pétain.
Non. Pétain, il sévissait déjà à l'époque, mais...
Sur le front.
Peu importe. L'assommoir, c'est l'endroit où on va, comme on allait en Indochine, dans une fumerie d'opium. On y va vraiment... pour se casser la tête,
oublier.
C'est vraiment oublier, déposer le fardeau de la pensée, comme disait Balzac. C'est une boisson qui va poser des problèmes sanitaires et sociaux énormes. Donc il y a des campagnes. C'est de là que datent les ligues anti-alcooliques, qui n'existaient pas en France. Avant, c'était un truc de protestants. C'était l'armée du salut. C'est consul social du.
Mais c'est quoi le problème de l'absinthe? C'est que c'est distillé n'importe comment ou...
Non, le problème, c'est qu'il y a un taux d'alcool très très élevé. Et puis, il y a d'autres effets qui sont des effets hallucinogènes. Sont des effets qu'il n'y a pas dans l'absinthe qu'on trouve de nos jours. Hein.
D'accord.
Mais dans l'absinthe qu'il y avait à l'époque, c'est un peu... Bon, cette culture de l'absinthe, elle correspond à la culture des narcotiques modernes, un peu. Et en particulier, je pense à l'héroïne. Donc, pourquoi elle n'a pas été interdite plus tôt? La sommoire, quoi. C'est-à-dire, bon, c'était aussi une manière...
La soupape, quoi. Sociale.
C'était une manière de faire régner la paix sociale et le maintien de l'ordre. Comme on a pu le voir... dans les grandes villes américaines, après les émeutes noires des années 60,
de Watts, de
Détroit, et où la CIA s'est arrangée pour, les différentes polices politiques, CIA, FBI, etc., ont laissé faire ou encouragé ou carrément fait le commerce à très bas prix pour accrocher les gens.
De la blanche.
Ce qui fait que des habitants de Harlem ou de Détroit ou des quartiers du South Side, des quartiers de Chicago, ils avaient tellement de raisons de prendre quelque chose comme ça, une drogue très forte qui te fait oublier la misère de la vie. Si en plus elle est donnée, elle est pas chère, donc ça va se répandre. Et on a vu le même cas dans les proportions un peu moindres à Milan ou à Madrid après les,
oui, quand c'est arrivé,
après les troubles sociaux des années 70.
Quand c'est, ou dans les endroits conflictuels quand c'est arrivé par kilotonne. Voilà. Je crois qu'on va terminer là-dessus parce que franchement...
On a dépassé, hein.
On a de quoi.
Le Sébasto, une chanson d'avant l'Eldorado. Il n'y avait même pas de McDo.
Grattait avec sa daronne pour une fabrique de couronne qui était rue de Rambuteau, près de ses bateaux. Après de longs jours de chômage, comme la môme trouvait pas d'ouvrage, elle se laissa tomber un tantôt sur le Sébasto. Vieille kébara dans la peine, chagrin macabre dans la scène, pièce maria avec Toto du Sébasto. La gosse qui était petite et fluette, s'arrachait comme une fillette, tous les cabons devinrent marteaux sur le Sébasto. Cette nouvelle étoile, ses copines pour qu'elle mette les voiles, la croissait dans tous les coins stos. Sébasto. Voyant qu'elle restait là quand même, celle-ci la fit remettre en brème, et les bourgs la marquèrent d'auto sur le Sébasto. La môme paume sa clientèle, le bonhomme arceau sur la faire belle, flopait du rail cher sa cato sur Sébasto. Paré de toutes ses vacheries, ainsi que de ses paillassonneries, la petite y a son gars pour bateau du Sébasto. Se vanne pour se venger un soir tisane, dans le rab lui planta son couteau sur le Sébasto. La môme connie de sa blessure, au tard Toto se fait la levure, ainsi finissent leurs zigotos